On est une industrie culturelle, certes, mais qui n'est pas très unie et qui ne parle pas tous de la même voix. Et puis surtout, on n'a pas les artistes et les managers avec nous. Ça, on l'a vraiment senti.
La poursuite.
Le stress, le digidi.
Ah ben vous ne savez pas ce que c'est d'avoir le trac. Bien moi, je trac tout le temps.
Dans la foule, je me suis jeté comme si j'étais recyclé.
Les artistes dévoilent ce qui se joue sur scène.
Ma tonité, t'as un rocker, ma gueule.
Showtime!
Quand il n'y a plus de spectacle, que deviennent les producteurs de spectacles et les tourneurs si rien ne tourne? Moa Lasquale, Jul, Damso, Dino, Sayana Kamura ou Medine, derrière les plus grandes scènes du rap français, on trouve Yuma Prod et à sa tête le Lyonnais Eric Bellamy. Alors quand tout s'arrête, qu'est-ce qui reste? Eric est sous la poursuite.
Pour moi, il y a deux métiers dans le fait d'être booker. Moi, parce que moi, je fais une vraie différence entre les bookers et les producteurs de spectacles. Je pense que les bookers, c'est pour moi les gens qui cherchent des dates de concert, vraiment, et qui s'occupent de vendre la date d'un artiste, un organisateur de spectacle. Pour moi, c'est ça, les bookers. Après, les producteurs de spectacles sont ceux, par contre, qui font effectivement le travail de commercial, qui est le booking, mais aussi vraiment la création du spectacle et une stratégie de tournée, c'est-à-dire avec un planning que tu réfléchis à l'avance, construction de tournée. Pour moi, c'est un peu deux métiers différents. Le métier de booker, on va dire qu'il est complémentaire à celui de producteur de spectacle, mais moi, je me définis vraiment comme producteur de spectacle.
Et pourquoi toi, tu as eu envie de faire ça? Comment tu as été... Tu t'es retrouvé à faire ce travail?
En fait, ça a été tout un parcours. Moi, je suis arrivé... je pense que tu avais interviewé mes collègues d'IPM, parce que moi, je viens de cette histoire-là aussi. J'étais beatmaker d'IPM. Après, j'ai été manager par défaut de ce groupe. Et puis ensuite, on a monté un label qui s'appelait Lyonnaise des Flots en 1998. Dans ce label, on a fait beaucoup de choses, dont de la tournée. Donc, de la tournée d'IPM et ensuite d'autres groupes. Et c'est donc dans tous ces services de... qu'on a proposé à d'autres groupes dans la tournée, que j'ai commencé à faire mes premières armes comme ça. Et puis des groupes parisiens m'ont dit, mais comment ça se fait que vous, avec votre groupe de Lyon, là, vous arrivez à faire plein de dates, et nous, à Paris, on galère. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer mes services à d'autres groupes parisiens, et puis que j'ai développé un catalogue petit à petit.
T'as commencé avec qui?
À l'époque, c'était L'Est du Neuf, c'était Princesse Agnès, c'était... ensuite, ça a été rapidement Kery James, parce que j'étais très ami avec les gens qui le produisaient au niveau du disque, le label à l'Ariana. Et puis ensuite, ils m'ont proposé eux-mêmes plein d'autres artistes de la Mafia Quin Free. Et puis ensuite, Busta Flex. Enfin, ça a été une entrée assez rapide, on va dire, dans ce milieu.
J'ai l'intuition des choses, la prose objective, le saisissement de l'idée. Une perception très précise, tu sais qu'il faut actualiser, optimiser les impressions, maîtriser la fiction pour guérir des afflictions.
Comment va Yuma aujourd'hui?
Ben écoute, Yuma est comme beaucoup de sociétés à l'arrêt depuis le mois de mars. Fin août, ça fera 6 mois. Donc, puisqu'on n'a rien jusqu'à fin août. Nous, on a fait le pari de la fin de l'année. On est tous encore en chômage partiel. Et on tient on espère pouvoir la possibilité de faire nos 90 concerts qui sont prévus entre septembre et fin décembre. Mais c'est un pari et on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours.
C'est un gros impact financier, là?
Oui, ouais, c'est très, très compliqué parce qu'on est quand même 11. Beaucoup essentiellement de monde à Paris et surtout on a perdu, on va dire, 60-70% de notre chiffre d'affaires à fin août, quoi. Donc s'il n'y a rien effectivement jusqu'à la fin de l'année, ça va être une année très compliquée pour beaucoup de gens.
Vous avez annulé combien de concerts là? Ou reporté d'ailleurs?
On a annulé 30 ou 40 dates, après on en a reporté un paquet et après on a perdu tous les festivals d'été. Je crois que cette année on avait quand même une belle saison pour une fois en plus. Donc je crois qu'on a perdu pareil 50-60 dates sur cet été.
Comment ça s'est passé? Ça ressemblait à quoi le quotidien de Yuma pendant ce confinement?
Au début, justement, c'était dans les reports, dans tout ça, dans la panique un peu, la gestion de tous les groupes qui étaient tous un peu affolés. Le gros dossier des intermittents du spectacle a été très très compliqué à gérer, hein, ça c'est sûr. Mettre tout le monde au chômage partiel et puis après faire beaucoup de réunions Zoom avec Teams, avec nos collègues et puis avec d'autres sociétés. On essayait de se parler un peu entre producteurs spectacle. Mais je pense que ce qui nous a manqué, ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est quand même... On est une industrie culturelle, certes, mais qui n'est pas très unie et qui ne parle pas tous de la même voix. Et puis surtout, on n'a pas les artistes et les managers avec nous. Ça, on l'a vraiment senti, une fois de plus, sur cette crise, je trouve.
Tu trouves que ça manque de cohésion, artistes, managers, producteurs de spectacles?
Ouais.
Pourquoi ça ne prend pas, à ton avis?
Je pense que les artistes, moi je l'explique par le fait qu'ils ont un peu peur. Ils ont un peu peur de vouloir forcer sur, en se disant il faut qu'on reprenne, si effectivement les mesures sanitaires ne sont pas claires et qu'il y a un vrai risque. Donc ils sont un peu dans cette peur, mais d'un autre côté, tu as les gens du théâtre et tout ça, on a vu qu'ils se sont battus, puis eux ils ont repris. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est pas très uni tout ça, et c'est un peu dommage, mais ça prouve une fois de plus qu'on n'est pas, une vraie industrie comme on peut le dire en réalité.
Ils veulent jouer les gangsters, veulent se voir en poster, mais on a vu que leur sœur et encore on va se taire. Ils veulent jouer les gangsters, veulent se voir en poster, mais on a vu que leur sœur et encore on va se taire.
On va vous balayer la vie de ma mère. Qui fait le con là-bas, c'est qui fait le con? J'ai pas le temps de répondre sur internet. J'fais de l'argent, ma gueule, et j'fais mes cons.
Tu les as eu, tes artistes, beaucoup, toi, au téléphone, ils t'ont dit quoi?
Ouais, ben pour la plupart, ce sont des gros gens qui vivent, des gros streamers, comme on dit, donc des gens qui vivent du disque. Donc il y a eu une espèce de frémissement du stream, mais en réalité, le stream marche encore bien, donc ils sont retournés en studio, ils continuent à faire de la musique, et puis ils attendent que ça revienne, mais... Il y a ceux à qui ça manque beaucoup et puis ceux à qui ils font avec et en attendant ils font des morceaux.
T'as des anecdotes de confinement où t'as eu au téléphone ou des moments un peu marquants pour toi avec les artistes?
Les moments les plus marquants, c'est les artistes qui veulent pas comprendre qu'ils vont pas être payés sur les dates, qui sont annulés, qui continuent à nous demander des avances comme si on avait fait les dates qui ont été annulées. Enfin voilà, des petits moments comme ça où tu dis mais tu sais sur quelle planète on est ou t'as pas compris ce qui se passe dehors là.
Et puis vous, c'est quand même des gros jauges, je sais pas, je pense à Nino, Maes, même Moala Squal, enfin voilà, c'est des grands noms, c'est des gros jauges. Du coup, vous êtes optimiste pour la fin de l'année là?
Écoute, on essaye, mais on attend de savoir les mesures qui normalement doivent sortir d'ici mi-juillet. Je pense qu'on a besoin vraiment d'avoir une réponse claire. Si ça joue pas, ça joue pas. Mais cette espèce d'entre-deux où on essaie, tout le monde se renvoie la balle, c'est insupportable, je trouve. Donc nous, en tout cas, on attend les mesures et puis on est prêt à décaler s'il faut décaler.
Qu'est-ce qui t'a le plus agacé justement dans ces moments de flou gouvernementaux?
Je pense que c'est vraiment les espèces de monologues où rien n'est très clair, en fait, où on renvoie la responsabilité des dirigeants de salle, la décision d'ouvrir ou pas leur salle. Enfin voilà, je trouve ça dingue. Et c'est vrai que c'est... En Allemagne, ils ont été plus radicales, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont dit que eux, les grands jauges, c'est pas avant 2021, au moins c'est clair. Et puis effectivement, je pense que le problème de fond, c'est que je pense qu'on aurait dû un peu tester rapidement toute la population, ce qui permettrait aussi d'avoir une vision un peu plus claire de là où on est.
Mais t'es optimiste quand même?
Ouais, moi je suis un grand optimiste, donc j'espère.
Tu connais l'animal, fonce des gens, trouve pas les mots. Ce soir, Amsterdam, la valise était d'Andamé. 220 dominos, on devient les mal dominants. Je me pars à Amsterdam, j'ai la rue en double AP. Ce soir, fais ce qui m'adame, c'est la pointe du gars qui la paie. Ce soir, Amsterdam, c'est la rue qui s'en rappelle. Ce soir, Amsterdam.
T'as l'impression que pour certains artistes, ça a été l'occasion de réfléchir à envisager un live un peu différent, envisager de nouvelles choses, créer autre chose.
Moi, je pense que c'est un peu... Il y a eu effectivement des micro-phénomènes comme le concert de Travis Scott à travers Fortnite, tout ça. Nous, on travaille effectivement sur des projets de concerts en salle streamés, avec streaming en direct, diffusion live en direct. On travaille un peu dessus. J'ai envie de dire, ce sont des projets qui, à mon avis, verront le jour si vraiment il ne se passe rien à la fin de l'année. Parce que je pense que les gens aujourd'hui dans leur tête ne sont pas encore prêts à payer vraiment pour voir un concert de hip-hop derrière un écran. Je trouve qu'en plus, même pour nous, on n'a pas intérêt à se faire ce truc-là parce que finalement, le live est le secteur qui n'a jamais été piraté parce que tu ressens quelque chose en live que tu ne ressens pas derrière un écran. Donc on n'a pas intérêt à trop à jouer ce jeu-là aussi, je trouve, parce qu'on va se mettre une balle dans le pied. Le live, tu as besoin de sentir des basses, de l'infra, tu as besoin d'une sensation physique. Mais c'est clair que tu as besoin aussi d'être dans un concert où aujourd'hui le rap est le nouveau rock, où il faut que les gamins puissent faire des pogos et torse nu, sinon ça n'a aucun sens.
Et est-ce qu'il y a un risque pour vous aujourd'hui, pour Yuma, de faillite si ça ne reprend pas rapidement?
Je pense qu'il y a un vrai risque de plan social, oui. Après de faillite, aujourd'hui moi j'ai eu la chance et j'ai fait le choix il y a un an de faire entrer dans Yuma, j'ai vendu la majorité de mes parts à Vivendi, qui est un gros groupe financier que vous connaissez. Donc ça me permet de pouvoir voir l'avenir un peu plus sereinement, en me disant que de toute façon l'ensemble du groupe est impacté et que je pense que pour l'instant ils n'envisagent pas tout de suite de faire des grosses coupes sur le spectacle, mais encore une fois c'est pas moi qui vais décider. Mais je pense que je suis un peu plus préservé que d'autres producteurs de spectacles indépendants qui ont pris des prêts BPI, qui ont fait beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas eu tout ça. Moi, mes frais continuent à être payés, absorbés par le groupe. Donc, je pense que tout ça, ça va faire que, par contre, les groupes vont prendre quand même de l'importance au moment où il va falloir repartir. Parce que là, ils vont certainement... Il y a toujours, tu sais, dans ces moments-là, des gens qui font fortune pendant que les autres font faillite. Donc, on n'est pas à l'abri de ça aussi.
Et justement, du coup, est-ce que c'est la guerre entre... Les producteurs, les tourneurs, comment ça se passe ?
C'était déjà la guerre avant. Donc forcément, ce climat-là ne va pas arranger les choses. C'est pour ça, quand moi j'ai assisté aux réunions du syndicat, du Prodis, tout ça, où tu sens qu'il y a des tensions. C'est le syndicat des producteurs de spectacles. Tu sens qu'il y a des tensions entre les gens des indépendants et puis qui n'ont pas du tout les mêmes problèmes du quotidien que les gens des groupes financiers. C'est normal. Et donc tout ça, ça va pas s'arranger. Et on était parti comme dans une course effrénée à l'argent, tu vois. Les avances données aux artistes étaient de plus en plus folles, les deals étaient dictés par les avocats qui t'expliquaient qu'aujourd'hui, ben non, tu dois gagner 30% et que sois déjà content. Donc ça va pas s'arranger, je pense pas. Et donc la bataille va être encore plus difficile.
Ouais. Et du coup, aller jusqu'au clash et jusqu'à la disparition des indés ?
Non, je pense que oui, il y aura une taille critique qui va être difficile à tenir. Soit, moi c'est pour ça que j'ai vendu à un moment donné clairement ma société. Je pense que soit tu as la possibilité d'avoir des groupes que tu sais qu'un jour tu vas perdre parce que c'est comme ça, c'est le game comme on dit. Donc tu vas les développer, il faut que tu fasses ton économie dessus. Mais tu sais que tu ne pourras pas les tenir jusqu'au bout parce que tu n'auras pas les reins assez solides face aux groupes financiers. Donc c'est à toi de faire la société qui rentre dans ce schéma financier-là. Mais je trouve ça frustrant de te dire qu'à un moment donné, ben, tu n'as plus les moyens. Donc c'est pour ça que moi, j'avais décidé tout de suite de vendre et de faire entrer un financier dans ma société pour pouvoir avoir la possibilité d'accompagner les groupes jusqu'au bout. Mais c'est le risque, il est vraiment là aujourd'hui. C'est sur les indés, c'est que j'ai peu de confiance aux managers et aux artistes qui sont de plus en plus vénales, comme on dit.
On a fait des comas, des traumas, oui j'ai tagué le lévrier, je voulais qu'il devienne dalmatien. On a mis les piranhas dans le bassin, on a mis ta tata sous absinthe et on l'a foutu dans le bassin. J'ai compris que je brillais quand j'ai vu le canapé griller, les canadaires tourner au-dessus de la nouvelle maison du voisin.
C'est quel artiste ou quel groupe qui t'ont permis toi de passer à une étape supérieure comme ça ?
Bah, je pense qu'il y a eu les deux gros succès que j'ai eu dans ma carrière, c'était quand même Section d'Assaut. Ça, c'est sûr. Et puis Youssoupha, à peu près à la même période. Sur l'album Noir Désir, c'était les deux gros succès qui ont permis de me faire basculer dans la cour des grands producteurs spectacles, comme on dit. Où là, d'un seul coup, les gens du Prodis étaient ravis que je fasse partie de leur syndicat. Enfin, voilà.
Et aujourd'hui, c'est quel artiste qui porte vraiment Yuma ?
Bah, c'est toute une série. Aujourd'hui, je pense que notre équilibre, il est sur, à la fois pour moi, les artistes d'aujourd'hui majeurs, hein, Nino, Damso, Maes, effectivement, Moala Squal, Aya Nakamura. Et puis après, il y a beaucoup d'artistes auxquels on croit beaucoup, qui arrivent, des artistes très en développement, comme les Kikessa, par exemple. Et puis des artistes, on va dire, qui à mon avis, vont être en 2021 très très forts, comme Taïk, par exemple, qui est en train d'exploser en ce moment. Donc voilà, on fait notre équilibre avec les poulains de demain et les grosses stars de demain, pardon. Et puis ceux qui sont déjà majeurs aujourd'hui et puis ceux qui sont encore, on va dire, dans la salle d'entraînement et qu'on accompagne.
Et tu arrives à garder ce même lien de sincérité? Tu vois, d'envie, de passion avec tous.
Ouais, ça serait dire un mensonge que oui, non, c'est forcément aujourd'hui, j'ai forcément une vision beaucoup plus business qu'avant, parce que la passion, j'ai dérouillé aussi de ma passion, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des artistes que j'ai perdus justement au cours de ma carrière pour une histoire d'argent, alors que j'ai construit, j'estime avoir construit quand même un bout de chemin avec eux pendant plus de 10 ans, et puis qui t'expliquent que ils ont envie d'aller goûter ailleurs si c'est le même goût. Donc...
Qui, par exemple? J'ai envie de savoir, du coup, maintenant.
Non, mais non, on ne va pas se faire des ennemis tout de suite. Mais, mais oui, forcément, c'est sûr qu'à un moment donné, des artistes auxquels tu crois, et puis après, quand ça marche, c'est forcément grâce à l'artiste, et non plus grâce à ceux qui l'entourent. Ça, c'est typique du succès d'un artiste, de toute façon.
Bien sûr, la messagerie de Jules, je suis pas là pour le moment, laisse-moi un message même si je les écoute jamais.
Et est-ce que finalement miser tout sur le live pour les prochaines années, ces années de pandémie qui peuvent jaillir à tout moment, c'est pas dangereux et que l'idée, ce serait pas plus rassurant de se diversifier un maximum, hein.
Moi, je pense que le live, comme je disais, t'as besoin, dans le live, tu as une sensation physique que tu n'as pas ailleurs. Donc je pense que même s'il faut réinventer, parce qu'on est un secteur de toute façon qui s'est réinventé le plus depuis 10 ans, hein, il faudra continuer à le faire. Donc moi, je n'ai pas forcément tout de suite envie de me lancer dans le management, dans la production de disques comme j'ai pu le faire et tout ça, mais même si ça me titille et que je pense que je vais faire quelques petits trucs parce que j'en ai envie, mais je sais pas vraiment, pour moi c'est pas ça la diversification, c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire à un titre personnel. Mais je pense qu'il y a des choses encore à inventer sur des nouveaux festivals, sur des choses. C'est pareil, on pourra avoir ce débat, mais sur les festivals, il y a effectivement les très gros festivals, mais il y a encore beaucoup de place, je pense, pour des festivals un peu atypiques. Donc il y a des choses à continuer à inventer, c'est ça qui m'excite le plus.
Ce soir Amsterdam, je me barre Amsterdam, j'ai la rue en double appel. Ce soir je fais ce qui m'attend, c'est la patte du gars qui l'appelle. Ce soir Amsterdam, c'est la rue qui s'en rappelle. Ce soir Amsterdam.
La poursuite.
Let's go. Ce soir Amsterdam.
Un podcast de Cheese Nine.